Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud devant Festival international du film de fiction historique avec Ni Chaîne Ni Maître et Félix Lefebvre. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me... Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Hugo.
Bonjour.
Alors, on va parler de Ni Chaîne Ni Maître. Je vous en ai déjà parlé hein, avec le réalisateur Simon Moutérou. Je vous ai dit que c'était un réel coup de cœur et je le redis. Et je crois que la personne qui est en face de moi en pense pas moins, à mon avis, vu son sourire. Et c'est vrai que Ni Chaîne Ni Maître eh bien, était projeté au Festival international du film de fiction historique. Il vient de sortir en salle. C'est très très important, ce 18 septembre, il vient de sortir en salle, allez le voir, courez-y, et d'abord, on va vous dire de quoi ça parle.
Donc évidemment, Ni Chaîne Ni Maître, comme vous l'avez dit, est sorti mercredi, donc dans les cinémas Pathé Labège et Pathé Wilson. En tant que synopsis, c'est un film qui se déroule en 1759 dans l'île de France, actuellement, si vous voulez la situer, c'est l'île Maurice. Donc nous avons les deux personnages principaux, Massamba et Mati, qui sont esclaves dans la plantation d'Eugène Larsonnet. Eugène Larsonnet, qui joue son rôle grâce à Benoît Magimel, vont vivre dans la peur et le labeur. Lui, le père, rêve que sa fille soit affranchie. Elle veut quitter l'enfer de la plantation de la canne à sucre. Une nuit, elle s'enfuit. Madame la Victoire, campée par Camille Cotin, est une célèbre chasseuse d'esclaves et elle est engagée pour la traquer. Massamba, son père, n'a d'autre choix que de s'évader à son tour. Par cet acte, il devient donc un marron, un fugitif qui rompt à jamais avec l'ordre colonial.
Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
J'ai trouvé ce film franchement fantastique par le fait qu'on ne parle pas assez, je trouve, de l'esclavage français. Il y a eu pas mal de films sur l'esclavage américain, sur la ségrégation, etc. Et c'est vrai qu'en France, je trouve qu'on n'a vraiment jamais assez développé ce sujet, etc. Et le fait de voir vraiment ce que c'était à l'époque, surtout dans des îles, etc. Et le fait de comment les personnes blanches pouvaient parler des personnes de couleur, c'est franchement assez choquant et impressionnant que, c'est... que ça soit comme ça... dans le passé et qu'aujourd'hui, notre société a totalement évolué dans le positif.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un personnage qui est très important, qui apprend à lire et à écrire, à Massamba, dit Cicéron. C'est Honoré Larsonnet, qui est interprété par Félix Lefebvre. Et figure-toi que j'ai eu la chance de le rencontrer au Festival international du film de fiction historique, et on parle du film avec lui. Ah là là, il en a hein, des films qui sont à l'affiche aussi, hein, Une vie rêvée qui est encore toujours au cinéma. Pathé Wilson, Pathé Labège, c'est Gérard Blagnac. N'hésitez pas à aller le voir, c'est complètement différent comme il nous l'a dit, mais c'est vrai que Ni Chaîne Ni Maître pose les choses sur l'esclavage, sur un pan du passé qui est oublié et qu'on a mis sous la couverture et que Simon Moutérou nous montre, nous met face à face avec la réalité et ce personnage très très fort de Madame la Victoire. Ben oui, Simon Moutérou nous avait confié une petite anecdote, alors n'hésitez pas à écouter le podcast sur l'application Esprit Occitanie ou sur le site Esprit Occitanie pour découvrir son interview. Félix, on le sent très... Bonjour Félix.
Bonjour.
On est au Festival international du film de fiction historique où tu viens accompagner le film Ni chaîne ni maître qui vient de sortir au cinéma. Qu'est-ce que ça te fait de venir, de rencontrer le public ?
Bah, c'est toujours un moment émouvant, c'est un moment où le film prend vie, le film existe à travers les émotions des gens. Et surtout pour une histoire pareille, avec un sujet d'une telle envergure, moi je suis très fier de montrer ce film, je suis très fier juste d'être ne serait-ce qu'un petit rouage de cette grande histoire. Et on a déjà fait quelques rencontres avec le public, et j'ai déjà pu voir un petit peu avoir des retours un petit peu, et c'est vrai qu'à chaque fois les émotions sont fortes et les discussions après sont fascinantes, donc j'ai hâte de discuter avec les gens après la projection.
Tu incarnes le rôle d'Honoré, si je ne me trompe pas. C'est le fils du maître des lieux, Benoît Magimel. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un tel rôle avec ce fait d'être un Français qui a des esclaves et qui, a de l'affection pour eux, ce qui n'est pas chose courante à cette époque, et il va apprendre à lire et à écrire Alain Cicéron. Qu'est-ce que ça fait quand on t'a proposé le rôle ?
Alors Simon est venu vers moi et j'étais très flatté parce qu'il est venu vers moi avec le scénario et il m'a dit « Choisis le rôle que tu as envie de jouer. »
Waouh !
Alors bien évidemment dans une mesure de crédibilité, donc c'était entre les trois rôles des trois jeunes. Et c'est le personnage qui m'a tout de suite donné envie parce que il y avait quelque chose d'un discours qui... C'est un film d'époque et c'est un film qui se passe au 18e avec des choses qui heureusement ont évolué aujourd'hui, mais j'ai la sensation que le personnage d'Honoré, il avait quand même quelque chose d'ancré dans un discours qui pourrait s'apparenter à un discours de la jeunesse d'aujourd'hui aussi, de vouloir changer les choses, de vouloir arrêter de stigmatiser et casser et briser les chaînes justement depuis l'intérieur. Même si toute la contradiction, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a envie de rendre leur liberté aux esclaves et en même temps il a envie d'être le fils de son père et d'être un bon fils et du coup d'être un...
Et qu'il soit fier de lui.
Et qu'il soit fier de lui, donc c'est totalement contradictoire et c'est ça qui m'a tout de suite intéressé sur le personnage, c'était cette contradiction des enjeux de qu'il tiraille en fait.
Oui, parce qu'on le voit, hein, quand il y a les châtiments, il est stoïque et on sent dans son regard qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais qu'il ne peut pas bouger.
Mais en même temps, il n'agit pas. Parce que, soit on peut se dire qu'il n'en a pas la force et qu'il ne fait que parler, mais qu'il n'agit pas. Ou alors on peut aussi voir qu'il ne peut rien faire, il est dans une situation où il n'a pas de pouvoir. Donc c'était une position qui est dure, en fait. C'est une position qui est dure et pour un personnage et qui est active. Et c'est vrai que pour un acteur, c'est toujours intéressant d'avoir un personnage qui est dans des conflits actifs et internes forts. Donc c'est pour ça que ce personnage, j'étais content de l'incarner.
Et puis il part à la recherche d'une maraudeuse, de Mati, qui est partie. Alors il demande à son père de l'épargner, donc on ne sait pas. Mais il va partir avec trois personnes, dont la Victoire, Madame la Victoire, interprétée par Camille Cotin, et il va partir à cheval et avec ses deux fils.
Ouais. Et surtout que lui, encore une fois, il est imposé par son père d'aller chasser et ramener les esclaves à la plantation, sachant que lui aurait aimé laisser la liberté, justement. Donc il se retrouve une nouvelle fois face à une envie de bien faire, une envie d'en même temps être le fils de son père et que son père soit fier de lui, et en même temps il a envie d'aider les esclaves. Donc il se retrouve dans un conflit et il essaye de trouver en fait un arrangement avec son père. Il va essayer de dire d'accord, je vais aller les ramener, mais si je les ramène, soyez clément avec eux. Donc il essaye quand même, mais c'est compliqué. Et si vous voyez le film, vous allez voir que c'est parfois même bien plus compliqué. Et quand on croit que la situation est au plus bas, elle peut encore davantage s'enfoncer, malheureusement.
Oui. Il y a un basculement à un moment donné, on ne dira pas quoi.
On ne dira pas quoi,
mais il y a une très très belle scène de poursuite.
Ouais.
Très très belle, dans la forêt.
où il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est vrai que c'est puissant. Le coach était là pour vous guider, pour mettre en place ces scènes, aussi bien de l'équitation que une personne qui drivait un peu, non ?
Alors, il y avait, sur le tournage, il y avait un coach de jeu qui était là un peu pour encadrer un peu le tout. Et puis, mais Simon, ce qui était agréable, c'est que surtout Simon nous faisait confiance. Du coup, on avait quand même nos personnages avec nous et il nous laissait proposer et il nous laissait vraiment carte blanche une fois qu'il sentait qu'on avait compris notre personnage. Et il y avait tellement de facteurs à gérer. En plus, on était dans la forêt tropicale, il y avait parfois des averses qui arrivaient. On se retrouvait dans une boue pas possible, les chevaux qui n'en font qu'à leur tête, naturellement, parce que c'est des animaux sauvages, donc eux, ils n'ont pas envie de faire du cinéma. Donc, il y avait tellement de choses à gérer qu'on sentait qu'on avait notre personnage et que c'était à nous de le tenir aussi. Et cette confiance-là que nous a donné Simon et que m'a accordé Simon, je l'en suis redevable, parce que ça aussi, c'est agréable pour un acteur d'être responsabilisé et d'être aussi pas comme un enfant qu'on doit guider partout en le tenant par la main, tout le temps.
Avec les trois jeunes qui s'affrontent,
ouais.
Qui sont complètement opposés, les deux frères qui, eux, veulent ramener les esclaves et les voient comme des objets, comme des gens qui doivent servir et rien d'autre. Et puis, Honoré qui, lui, voit ce côté humain et veut les sauver.
Et en même temps, Honoré, qui a été le seul, qui a eu le luxe de lire un petit peu l'arrivée des Lumières, le siècle des Lumières, et du coup, qui a pu s'élever et s'instruire. Et en fait, il représente aussi d'autant plus la bourgeoisie, d'une certaine manière, qui a eu le temps et le luxe de lire et du coup de se poser des questions. Parce que se poser des questions, c'est un luxe quand même, que les deux fils de la Victoire qui ont été... condamnés dès le début, enfin condamnés, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui ont été contraints à chasser toute leur vie, n'ont même pas eu le temps de se poser la question. C'est pour ça que quand il y a un des deux fils qui est mis face à une situation qui peut remettre en question ses croyances, il est perturbé. Et en fait, on se rend compte que, c'est ça qui est intéressant, on se rend compte que c'est plus quelque chose de systémique et de l'éducation, plutôt que... Qu'une pensée instinctive, naturelle. Et de toute façon, des choses atroces comme ça, totalement déshumanisantes envers d'autres êtres humains, ne peuvent être que le fruit d'une éducation douteuse d'instruction totalement contre-naturelle, justement.
Quand tu as vu le film la première fois, tu l'as vu, ça y est, tu l'as vu en entier. Quand tu l'as vu la première fois, tu as été touché aussi par des scènes avec un peu de fantastique sur l'amour.
Ouais, moi quand j'ai vu le film, c'était un peu un choc. Hein. Franchement, j'avais tout de suite le sentiment d'immense fierté d'avoir juste ne serait-ce que participé, même si c'était très modeste, à ce film. Et je me suis rendu compte, c'est la seule fois de ma vie c'était vraiment une des seules fois où j'avais la sensation qu'en sortant du film, mes questionnements n'étaient même plus autour du cinéma, n'étaient même plus autour du film et de moi, mon regard sur ce que j'avais fait. C'était plus grand que ça, quoi. Le film avait pris une place dans mon inconscient encore plus importante. Au vu du sujet, et en plus le film est tellement émouvant et la fin, moi, à chaque fois me choque. Je l'ai vu deux fois et à chaque fois je suis en larmes et je peux pas...
Je confirme.
Je suis vraiment en larmes et physiquement je ne peux pas faire autrement qu'être en larmes. Et donc oui, c'était vraiment un choc. Et puis toute l'esthétique du film que je trouve aussi extrêmement forte et tous ces moments de spiritualité, de religion aussi, je les trouve totalement... cinématographique et totalement rêveur, et ça contraste en plus avec la brutalité de la réalité. Donc moi je suis vraiment un grand fan du film et j'ai hâte de voir les autres films de Simon. Je trouve que c'est vraiment un metteur en scène fascinant.
Oui, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs, puisque ça y est, le film est sorti au cinéma, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour qu'ils aillent le voir?
Je dirais tout simplement que c'est un film, je pense vraiment, qui fait partie des films avant-après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a vus, on ressort de la salle et on s'est pas uniquement diverti. Alors, c'est un film en plus qui a un très bon rythme, donc on s'ennuie pas du tout, mais on s'est pas uniquement diverti. Il reste en nous, il nous fait réfléchir, il nous questionne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi le rôle du cinéma de nous faire vraiment avancer dans notre conscience de ce qui est autour de nous. Et je pense vraiment que ce film a un impact fort sur notre humanité et nos regards sur les autres. Et en plus, c'est vraiment un film spectaculaire, magistral, et qu'il faut voir en salle de cinéma, vraiment. Plus l'écran est grand, plus vraiment ces images qui sont dingues vont vous arriver dans la tête, quoi.
Ouais, je suis d'accord. On se la prend en pleine tête. Hein. Je sors de la projection, donc j'ai encore les images des éclairs dans la tête, j'ai encore cette course-poursuite, j'ai encore les couleurs avec la forêt, le fait des branches cassées. Enfin, j'ai encore ce côté-là, je suis encore dedans, en fait. Je suis pas revenue de cette époque.
Bah, c'est ça. C'est ça, je pense qu'on on rentre facilement chez soi, difficilement chez soi après ce film. On met un peu de temps à redescendre.
Il y a un autre film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Une vie rêvée.
Ouais.
Ça aussi, un autre rôle complètement
très
différent.
C'est un autre cinéma que j'aime tout autant, d'un réalisateur totalement génial qui s'appelle Morgan Simon, avec une actrice qui est dingue, qui est Valéria Bruni. Et c'est un film sur la relation, une relation très compliquée, l'histoire d'un déclassement d'une famille. Qui sont à deux doigts de se retrouver à la rue, et comment ils vont gérer ça, et comment l'amour et les liens vraiment de cœur vont triompher malgré toutes les difficultés. C'est un film qui nous fait passer par mille émotions aussi. C'est un film dont je suis très très fier, qui est sorti depuis deux semaines, mais et si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous conseille vivement, vraiment.
Vive Allure aussi.
À Vive Allure, oui.
Oui, il va à Vive Allure.
Oui, c'est vrai. C'est un rythme... C'est des montagnes russes d'émotions.
C'est ça. C'est l'ascenseur émotionnel, en fait.
Ouais.
Il y a d'autres films qui vont arriver. Je voudrais qu'on en parle rapidement. Il y a L'épreuve du feu, qui est un drame. Mm. Là aussi, quelque chose de très fort.
C'est un drame, mais c'est... Je dirais quand même aussi que c'est un drame pathétiquement comique. Il y a quand même assez il y a beaucoup d'humour. Aurélien, le réalisateur, avait quand même beaucoup d'humour dans sa manière d'écrire les scènes, de les mettre en scène. Et je pense que c'est un film qui est très intéressant sur la jeunesse et sur le besoin d'appartenance au groupe et le besoin d'être aimé, quitte à justement délaisser les êtres qui nous aiment réellement. Et qui amène aussi une touche de légèreté, de la jeunesse là-dedans. Donc, je ne l'ai toujours pas vu, ça. On a fini le tournage il y a deux mois. Et j'ai hâte de le voir, et ça va être super. Et en plus, avec une jeune actrice, c'était son premier film, qui va être génial, extraordinaire, qui s'appelle Anja Verderosa. Son premier film était vraiment génial, en plus.
Et puis un autre qui est complètement différent aussi, un thriller, Le Domaine.
Le Domaine.
Celui-là, je l'attends avec impatience.
C'est Giovanni Alloa, qui est un réalisateur qui vient d'Italie, qui est totalement barré, je l'adore.
Complètement déjanté, on va dire.
Complètement déjanté, à l'image de son cinéma, c'est un faiseur d'images. Vraiment, il cherche des cadres. On pouvait passer 3 heures sur un plan à chercher un cadre. C'était une autre manière totalement différente de faire du cinéma, qui moi m'a vraiment fasciné. Et en plus, c'était une rencontre humaine aussi géniale, et un style de cinéma aussi que je ne connaissais pas. Un film plus de genre, plus thriller psychologique et... Et c'est vrai que ça change de registre totalement.
Ni chaîne ni maître, Simon m'a dit qu'il va y avoir des présentations aux scolaires. Tu vas accompagner le film? Tu as envie de le faire?
Ouais, totalement. C'est toujours intéressant d'échanger avec des jeunes et même de pousser des jeunes qui iraient pas forcément en salle de cinéma dans une salle. Je trouve ça toujours bien, parce que c'est aussi quand on est jeune, si on a des émotions fortes en salle très tôt, qu'on va avoir envie d'y retourner toute sa vie. Donc je trouve ça hyper important, et même d'écouter le dialogue est toujours intéressant, hein. Et puis en plus, moi, je le suis jeune, du coup, en fait, c'est même pas tant des jeunes pour moi, hein. Mais hier, on a fait un débat justement avec des collégiens et des lycéens. C'était intéressant de voir leur réaction et de voir comment ils peuvent être touchés par le film, et justement de voir On a vu que d'habitude, ce qu'on nous disait, c'est que d'habitude, souvent, les collégiens et les lycéens, ils étaient assez dissipés pendant les questions-réponses. Et là, ils étaient quand même très concentrés et très à l'écoute. Donc, je pense que le film les a quand même perturbés dans le bon sens du terme et questionnés. Je pense que c'est un film qui éveille sur beaucoup de choses qu'on oublie trop souvent. Et il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien, qui est « l'oubli est le tombeau de la liberté ». Et c'est vrai que si on met à l'ombre trop longtemps certaines choses, parfois même honteuses de notre passé, on risque de soit les reproduire, soit avancer dans une direction qu'on croit être la bonne, mais par faute d'inconscience quoi, et de non-connaissance. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que représente mon personnage avec le siècle des Lumières. C'est vraiment ça, les Lumières, c'est instruire le peuple et lui donner la connaissance pour qu'il ait le pouvoir. Parce que ça a été toujours un petit peu, les dictateurs et les gens au pouvoir voulaient faire en sorte que le peuple sache le moins de choses possible pour qu'il soit facilement manipulable. Parce qu'un peuple qui ne sait pas grand-chose, on lui dit n'importe quoi, il va y croire. Mais un peuple instruit, il ne va pas se laisser faire, il ne va pas se faire avoir, il ne va pas se faire manipuler. Et c'est aussi ça. Et du coup, c'est aussi ça le rôle du cinéma et de l'art en général même. Donc c'est pour ça que je suis fier de faire partie de ce film.
Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce moment.
Ah là là, il en a hein, des films qui sont à l'affiche aussi. Hein, Une vie rêvée qui est encore toujours au cinéma. Patty Wilson, Patty Labège, c'est Gérard Blagnac. N'hésitez pas à aller le voir. C'est complètement différent comme il nous l'a dit. Mais c'est vrai que ni chaîne ni maître pose les choses sur l'esclavage, sur un pan du passé qui est oublié et qu'on a mis sous la couverture et que Simon Moutérou nous montre, nous met face à face avec la réalité et ce personnage très très fort de Madame la Victoire. Ben oui, Simon Moutérou nous avait confié une petite anecdote, alors n'hésitez pas à écouter le podcast sur l'application Esprit Occitanie ou sur le site Esprit Occitanie pour découvrir son interview. Félix, on le sent très passionné par ce film, on le sent très investi dans son rôle et c'est vrai qu'il montre, voilà, il n'a pas le choix en fait entre son père Eugène Larsenet qui est joué par Benoît Magimel et Massamba, et ben il a le cul entre deux chaises et il veut bien faire. Et le seul moyen de bien faire, c'est de ne rien faire quand il y a la scène justement dont on parle avec lui, où il y a, on va dire, la punition pour cette échappée de la plantation, les marronneurs et les marronneuses qui reçoivent des coups de fouet. Alors pour la première, eh bien c'est la fleur de lys qui est gravée, qui est vraiment mise au fer sur la personne. Le deuxième, c'est couper les oreilles, ce qui est vraiment horrible, on peut le dire.
Et le jarret, ne l'oublions
pas. Et le
pas,
jarret, ah oui, oui, faut pas oublier le jarret, c'est vrai. Et le troisième, eh bien, c'est la mort. Donc là, bah, il n'y a pas d'échappatoire. Et ces règles sont respectées sur cette île. C'est quelque chose qui est mis en avant. Eugène Larsenet est content d'ailleurs parce qu'il n'y a jamais eu de peine de mort sur sa plantation. Ils sont toujours arrêtés aux deux premières et pas autre chose. Mais là, là, il a fort à faire parce qu'il y a plein de choses qui vont se produire dans ce film. Des cris d'esclaves. L'envie de révolutionner les choses, de dire les choses même s'ils sont muselés et bien la disparition, la fuite de Matty qui va engranger beaucoup de choses et qui va donner lieu à des courses-poursuites. Je sais pas comment tu as trouvé les courses-poursuites dans ce film.
Franchement, je les ai trouvées bien. Après, c'est vrai que Matty, on la voit pas énormément dans le film, plutôt vers la fin. Mais c'est vrai que toutes les courses-poursuites autour de Passamba, quand elle se fait poursuivre par Madame Victoire et ses deux fils, accompagnés de Félix, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça, avec Honoré. Oui.
Franchement, fantastiques, sont bien nuancées. On peut voir le temps passer, etc. On voit qu'il y a plusieurs jours qui se passent, que Massamba va rencontrer des personnes tout au long de son aventure qui vont l'aider pour la plupart du temps. C'est vrai que la seule chose que je puis trouver dommage, peut-être dans ce film, est le fait qu'on se retrouve dans une jungle. On est sur une île et il ne retrouve aucun animal sauvage. Sur toute la partie du film où il part en expédition pendant 2-3 jours, je dirais. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage du fait qu'on n'ait pas d'autres problèmes en dehors des Madame la Victoire et de ses deux fils.
Ah ouais, mais ça aurait été beaucoup plus dur, je pense, avec aussi. Les alligators, avec les bébêtes que j'aime pas qui serpentent, on ne dira pas ce que c'est. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais trouvé ça encore plus dur. Et je pense que ce qui était plus important pour le réalisateur, c'était de mettre le côté humain. De mettre ce côté-là, les esclaves d'un côté, Madame Victoire de l'autre, avec ses fils, qui ne connaissent que ça, qui ne connaissent que la chasse. Donc, c'est leur manière de faire. Et c'est pas la manière de faire d'Honoré qui, lui, a vu autre chose. Qui, comme il nous l'a dit dans l'interview, Félix Lefebvre, eh bien, lui, il connaît le siècle des Lumières. Et donc, il est plus cultivé et n'a pas ce fait de devenir chasseur. De vouloir à tout prix attraper les esclaves. Lui, il veut cultiver et leur rendre leur humanité.
C'est ça, on le voit, il a beau avoir eu une éducation vis-à-vis de son père, il a quand même des idées totalement différentes. Il n'hésite pas à s'opposer même à son père dans une scène qu'on peut voir dans le film. Et c'est vrai que toute la partie où il va accompagner Madame de Victoire et ses deux fils, il va être totalement contraire à toutes ses idées. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir que dans ce film sur l'esclavage français, il y a quand même un blanc dans tout ce film qui veut aider les Noirs, alors que tous les autres personnages blancs dans le film veulent les faire travailler en tant qu'esclaves. Et lui dit que c'est pas normal de faire ça, tout simplement, et que il devrait être à nos côtés et égaux.
Il y en a eu dans l'histoire, heureusement, qui ont brandi l'étendard. Alors, pas de façon très forte, mais d'une manière ou d'une autre, pour apporter leur aide aux esclaves et leur permettre aussi d'avoir une certaine dignité.
Oui, c'est ça, évidemment. J'ai pas de personnage en tête directement, mais c'est vrai que, voilà, à partir de... depuis que Christophe Colomb envahit l'Amérique et jusqu'aux années aujourd'hui, on a vu un grand, grand changement qui s'est fait au travers de différents pays, au travers de différentes guerres, de différents affrontements qui se sont valus de plus en plus cruels et qui aujourd'hui montrent que on est arrivé enfin à ce qu'on voulait faire depuis le début, enfin ce que certains Blancs voulaient faire pendant cette période-là.
C'était Chaud Devant, Festival international du film de fiction historique avec Nichène Nimettre et Félix Lefebvre. Merci beaucoup Félix pour cette interview. Merci pour ce moment passé. J'ai hâte de te découvrir dans tes nouveaux projets, dont le film de Georges. J'espère qu'il sera au Festival Grindhouse Paradise à Toulouse. Et d'ici là, n'hésitez pas à courir voir Nichène Nimettre au Pâté Wilson ou au Pâté La Beige ou même au CGR Blagnac.